Nous sommes arrivés au clou de cette balade, en quelque sorte. Vous avez admiré, j'espère, en venant, le paysage, la vue. C'est la même chose qu'admirait à son époque un certain François Roman. Ça commence bien. François Roman, c'est lui qui a construit cette maison. C'est pour ça que vous voyez ses initiales gravées dans la pierre, FR, en dessous de la date, 1610. Nous avons découvert cette bastide avec mon ami Simon Chauvin, membre de l'association, il y a quelque temps de cela, plus d'un an, et nous avons eu beaucoup de difficultés pour la retrouver. Henri Ménard, puisque c'est lui dont nous avons parlé, en parle dans ce livre, mais il ne nous dit pas où elle est. Il ne dit pas les endroits exacts. Donc on savait qu'elle était par ici, grâce à Simon qui connaît bien la région, puisqu'il est de Lourmarin. On savait qu'elle était par ici, mais où était-elle exactement? Il y a quelqu'un qui savait. C'était Renaud, mais il n'en disait rien. Il ne nous en avait jamais parlé, de cette bastide. Alors nous avons cherché avec Simon, on s'est promené dans le quartier d'Aguille, on a été sur les chantiers, et puis il y a un petit hameau un peu plus loin, un petit hameau qui est habité par une famille depuis très longtemps, ils ont plusieurs maisons, ils sont là tout en famille, très provençal. Simon les connaissait, il me dit, on va aller leur demander. On s'est rendu auprès de ces gens, on a eu de la chance, ils étaient là, leur fils en tout cas. Et le fils me dit, ah oui, la bastide de Montbrillon, oui, je la connais, oui. Elle est là-haut, nous dit-il en montrant cette direction. Mais de chez nous, c'est très difficile d'y accéder, très difficile. Non, c'est pas par là qu'il faut passer. Il faut passer par Gerbeau. Ah, alors on a repris notre voiture, on a redescendu, on a repris la route d'Aguille, chemin Gibas, et hop, on est remonté dans le chemin de Gerbeau. En montant, ça, on le voit quand on cherche, on l'a vu, parce qu'elle se voit depuis la piste. À deux ou trois moments, quand on monte la piste pour aller chez Renaud, on l'entrevoit. Et on a dit, elle est là, donc on va la trouver. Et on a trouvé un sentier, on l'a suivi, et on est arrivé là. Alors pourquoi je vous parle de cette bastide? Parce qu'Henri Ménard, notre écrivain local, dont nous rééditons les œuvres depuis 2 ans, en parle dans ce livre. Vous pourrez l'acheter si vous ne l'avez pas encore. J'en ai amené une dizaine en bas. Lourmarin et ses millésimes. C'est passionnant ce livre. Et il parle de cette bastide. Alors comment cette bastide a-t-elle été construite par François Roman? Pour le savoir, Henri, qui devait s'intéresser sans savoir, s'est dit, je vais demander, comme je sais que c'est la bastide de Montbrillon, on l'appelle comme ça, je vais demander à mon ami Édouard Montbrillon. C'était le dernier Montbrillon qui vivait encore à Lourmarin à l'époque, dans les années 60-70. Il est allé voir Édouard. Il a dit, Édouard, est-ce que tu peux me dire, cette bastide, quelle est son histoire? Ah, mais oui, lui a dit Édouard en provençal. Et il lui a tout raconté en provençal. Mais Henri le parlait couramment, donc il n'y avait pas de problème. Il a eu la gentillesse de nous écrire en français. Et donc, que dit Édouard? Il dit, à l'époque, fin des années 1500-1600, donc début du XVIIe siècle, François Roman, il habitait au Castelat. Dans une de ces maisons troglodytes qui sont groupées autour de la boîte à sel, vous savez, au cœur du village de Lourmarin, là où il y avait les premières maisons groupées autour du château de l'époque du Moyen-Âge. Et ces maisons, elles sont groupées, il y en a encore, des habitations, mais elles sont très petites, elles sont sombres, elles sont humides, froides l'hiver. Donc la vie n'y était pas très agréable, et François Roman, il rêvait de chaleur, de soleil. Et il avait une terre ici. Et un jour, il s'est dit, mais c'est là qu'il faut que j'aille vivre. Et il est venu et il a construit cette maison. Les Romanes, plus exactement les Romans, qui avaient été féminisés, parce qu'à l'époque, les noms se féminisaient facilement sur l'état civil des curés. Les Romans, c'est une très vieille famille vaudoise, donc d'origine de Lourmarin, comme les Montbrillon. C'est pour ça que la Bastide est passée chez les Montbrillon, parce qu'ils se sont mariés entre eux un jour, comme ça se faisait entre protestants. Donc les Romanes, il est venu s'installer ici, François Roman, et il a construit cette magnifique bastide. Et alors, Henri Ménard, après avoir raconté donc l'histoire de la bastide, enfin l'avoir plutôt relaté ce que lui avait raconté Édouard Montbrillon, il a appris une autre histoire, l'histoire du chêne de Montbrillon. Et cette histoire, elle est assez fameuse. Je vais vous la raconter maintenant. Enfin, vous la lire plus exactement. Nous étions à la fin, enfin au milieu du 19e siècle, puisque ça se passe en 1835. Et c'est le grand-père d'Édouard, qui s'appelle Pierre Montbrillon, qui habitait avec tous les siens dans cette bastide. Un soir d'hiver, lorsque la nuit fut venue, Pierre Montbrillon décida d'aller à l'affût des sangliers au sommet du Luberon. C'est vrai que suffit de grimper. Il prit son inséparable fusil à piston, plaça dans les poches de son carnier la poudre, les plombs, les amorces qui lui étaient indispensables, et le voilà prêt pour cette petite escapade clandestine. Il faut voir qu'ici, ils vivaient pratiquement totalement en autarcie. Ils avaient leur culture, et puis ils chassaient, ils braconnaient, et voilà. Ils n'allaient pas beaucoup faire de courses au supermarché. Au fur et à mesure qu'ils gravissaient les sentiers de la montagne, la lune qui se levait du côté de Cucuron éclairait comme en plein jour les moindres détours des bois, et notre jeune braconnier n'avait aucune peine pour trouver son chemin. 2 heures après, il était enfin au sommet du vallon des Cavaliers. Prenant la draille qui va à la bastide de Serres, dans la commune de Bioux, il s'y engagea sans hésiter, car elle était réputée pour être le passage le plus fréquenté par le gros gibier. Quelques minutes après, il grimpait lestement sur un chêne blanc et s'installait tant bien que mal dans cette position peu confortable, mais excellente pour un chasseur à l'affût. Bien emmitouflé dans sa vieille limousine, il attendit sans broncher d'un pouce pendant des heures. La lune commençait à disparaître derrière les montagnes, bordant la Durance, et n'éclairait plus les cimes boisées des vallons du Luberon. Pierre Montbrillon, perdant patience, s'apprêtait à descendre du chêne où il s'était juché, quand brusquement, il entendit un bruit de pierre qui dégringolait des pentes voisines. « Ah ! Ah !» se dit-il, « ce sont peut-être les sangliers !» Puis, plus rien. Cependant, il avait repris courage. Tendant davantage l'oreille, retenant son souffle, il perçut un léger bruit suivi de nouvelles chutes de pierre. Il se dit plus de doute, ils sont là. Mais ces bêtes sauvages avançaient lentement, leur instinct les rendant prudentes. Tout à coup, dans la grande obscurité qui régnait au-dessous de lui, il vit luire des yeux perçants pendant quelques secondes. Sans faire le moindre bruit, il épaula son fusil. Puis le silence se fit à nouveau. Les bêtes sauvages sentaient la présence et restaient cachées dans les bois. Après bien des tâtonnements, elles finirent par sortir brusquement du fourré et s'engager en trombe dans la draille. Sans hésiter, Pierre Montbrillon, qui se tenait toujours prêt à tirer, fit feu sur la masse noire qui déferlait sous lui. Aux 2 coups de fusil succédèrent immédiatement des hurlements de douleur poussés par les bêtes sauvages, dont l'écho se fit entendre un long moment dans le grand silence des vallons. Montbrillon crut les avoir tués. Pas du tout. Plusieurs furent blessés et une bataille acharnée se déclencha entre elles sous le chêne où il se trouvait perché. Il voulut alors tenter de recharger son arme pour essayer de les abattre. Mais quelle ne fut pas sa stupéfaction de constater que la baguette qui servait à bourrer son fusil était tombée sur le sol au moment où il avait fait feu. Le canon pointait vers la terre. Il était donc impossible de recharger son arme. Or, avec la lutte féroce que se livrait le gibier blessé, juste au-dessous de lui, il ne voulait pas descendre, craignant de se faire dévorer, d'autant plus qu'avec la nuit noire qui régnait, avec la disparition de la lune, il ne savait pas du tout en présence de quelle bête sauvage il allait se trouver. Il était ainsi prisonnier de ses victimes et bien heureux d'être hors de portée de leurs dents. La lutte acharnée se poursuivit toute la nuit, sans que Pierre Montbrillon puisse agir. Après de longues heures angoissantes, l'aube apparut. Peu à peu, en se levant, le jour dissipa lentement l'immense voile qui jusque-là l'empêchait de distinguer nettement ce qu'il y avait au-dessous de lui. Quelle ne fut pas sa surprise de voir alors une bande de loups qui, furieux, allaient et venaient dans tous les sens, se mordant entre eux, bondissant pour le mordre sur le chêne, la gueule ouverte, les poils de l'échine droits comme des clous. Pierre Montbrillon, épouvanté par cette meute de loups qui semait la terreur parmi la population, tant leur agressivité était grande, ne bronchait pas d'un pouce et se demandait anxieusement comment il allait se tirer d'une si fâcheuse posture, tout seul, sans défense, au milieu de ces redoutables bêtes sauvages. Enfin, 2 ou 3 heures après le lever du soleil, les loups, harassés de fatigue et de douleur, se retirèrent peu à peu dans les bois. Néanmoins, les moins atteints revenaient toujours encore un peu flairés sous le chêne. Et Montbrillon hésitait beaucoup à descendre, n'étant pas du tout certain d'avoir le temps de recharger son fusil avant le retour toujours possible d'un survivant. C'est vers midi seulement que la bande de loups se retira totalement dans le vallon de Serre. Notre chasseur téméraire descendit très vite du chêne sur lequel il avait passé la nuit. Ayant retrouvé son bourreur, il put recharger son fusil. Aussitôt après, sans perdre une minute, il reprit la draille du vallon des cavaliers à grandes enjambées et arriva enfin à sa bastille, bredouille, mais exténué de fatigue et mais bien heureux d'avoir la vie sauve. Il raconta alors à tous les siens les moments tragiques qu'il avait endurés. On devine facilement l'effroi de tous ces pauvres paysans qui n'en revenaient pas d'un tel récit et frémissaient à la pensée qu'il aurait pu être dévoré par les loups. Par la suite, cette aventure fut connue par tous les habitants de notre village et des environs. Elle a ainsi immortalisé ce chêne qui, depuis ce jour-là, a été appelé le chêne de Montbrillon, non seulement par les chasseurs et les bergers, mais également par tous ceux qui ont fréquenté et fréquentent encore ce coin du Luberon. Toutefois, certains d'entre vous seront peut-être tentés d'aller voir cet arbre vénéré, croyant trouver un chêne imposant. Hélas, ils seront déçus, car depuis lors, les incendies, la sécheresse, les bûcherons en ont fait un arbre rabougri, ayant repoussé tant bien que mal sur la souche de son ancêtre. Il en est autrement de la vieille bastide des Montbrillons, construite, comme je vous l'ai dit au début de ce récit, en 1610 par François Romane. Elle existe toujours. Le millésime et les initiales gravées sur la pierre, faisant clé de voûte de la porte d'entrée, sont parfaitement conservées et ont résisté aux intempéries. Quant à Pierre Montbrillon, héros de cette intrépide aventure, il est mort dans cette bastide le 22 juillet 1901, à l'âge de 88 ans. Ayant vécu toute sa vie au pied du Luberon, qu'il aimait par-dessus tout, il avait dit à son entourage qu'il voulait être enterré sur place, c'est-à-dire dans sa modeste demeure, tradition des protestants. Ses volontés furent respectées, et c'est en présence d'une grande partie des habitants de notre village que Pierre Montbrillon, doyen des paysans du quartier de Guille, fut enseveli dans un coin de l'air qui surplombe cette habitation. Aujourd'hui, les genêts et les chênes recouvrent sa tombe, et rien n'indique plus l'endroit où repose pour l'éternité ce brave lourd marinois. J'avoue avoir cherché et ne rien avoir trouvé. La tombe, s'il y en a eu une, a disparu. Mais il n'y en avait peut-être pas. Tout simplement, était-il enterré dans la terre, comme souvent les protestants faisaient. Voilà l'histoire du chêne de Montbrillon.
Merci.
Maintenant, on va reprendre notre chemin, mais on va faire une boucle, on va descendre.